Croyez-vous que le Hamas va finalement être désarmé? Telle était la question qu'on vous posait hier et sans surprise, eh bien, vous êtes 97% à penser que non sur notre communauté WhatsApp, vous êtes 84% à la fois sur Insta et Facebook à penser la même chose, donc que le Hamas ne sera pas finalement désarmé, et sur X, vous êtes 83% à penser pareil, le Hamas ne sera pas désarmé. C'est donc une grande unanimité. On va voir si notre invité partage ce pessimisme. Il s'agit, comme souvent quand il s'agit de sécuritaires, de Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Il est à votre micro, Lise.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, vous l'avez entendu, Raphaël, nos auditeurs ne croient pas que le Hamas va finalement être désarmé. Et s'ils ont raison, ça va quand même être un sacré problème pour l'avenir de Gaza.
Oui, ils seront désarmés. Le Hamas, tout d'ailleurs comme le Hezbollah, tout d'ailleurs comme les gardiens de la Révolution, ne désarmeront jamais. Ils n'accepteront jamais de désarmer. Ils trouveront toujours des moyens de contourner même certains accords pour planquer des armes et les ressortir le moment voulu. Par contre, ils seront désarmés, tôt ou tard. C'est-à-dire qu'il y aura soit une solution politique qui les avantagera au point de rendre leurs armes. Certains, par exemple, on leur a promis une amnistie qu'ils seraient épargnés, entre guillemets, et pas éliminés, comme on a l'intention, s'ils désarmaient. Et sinon, eh bien, ils seront désarmés tôt ou tard par la force. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de combats contre eux et qu'on n'a pas encore réussi à supprimer leur puissance militaire, mais c'est une question de ténacité et de temps. Et donc, si besoin est, Tsahal finira par désarmer et aussi bien le Hamas que le Hezbollah. Donc la question en fait, c'est est-ce que le Hamas a l'intention de désarmer? Alors ça, c'est non. Est-ce qu'Israël a l'intention de désarmer le Hamas? Ça, c'est oui.
Alors, cette question, justement, Raphaël, elle était dans l'actualité ces derniers jours parce que le Conseil de la paix écoutait les positions des uns et des autres. Et là, il a clairement dit que c'était la position d'Israël qui était celle de l'accord qui avait été signé, c'est-à-dire que le désarmement devait avoir lieu avant le retrait de Tsahal de Gaza, même si le Hamas ne cessait de répéter que ça devait être l'inverse.
Oui, non, mais ça a été précisé aujourd'hui. On a d'ailleurs les représentants du Conseil de la paix, Monsieur Mladenov des Nations Unies, ont précisé que même dans ce cas-ci, Tsahal ne se retirait pas complètement de la bande de Gaza, mais qu'il repasserait de l'autre côté de la ligne jaune et que ça serait graduel. Plus le Hamas désarme, plus Tsahal recule. La même chose d'ailleurs au Liban. Et si le Hamas ne désarme pas suffisamment, Tsahal ne bouge pas. Donc je pense que c'est assez raisonnable. Dans l'ensemble, il y a des solutions politiques. Il y en avait d'ailleurs auparavant. Il faut bien admettre que les Israéliens sont en partie responsables. Je parle des politiciens, bien sûr, pas de l'armée qui fait bien son travail. En partie responsables de ces zigzags et de ces ralentissements. Tout simplement parce que lorsque Tsahal avait le dessus à Gaza, le gouvernement israélien n'a pas été capable de trouver une solution politique pour capitaliser sur ses acquis militaires de Tsahal. Et donc, ça bloque, en fin de compte, aussi bien à Gaza qu'à Jérusalem, pour des raisons tout à fait politiques. En ce moment, Benjamin Netanyahu étant en campagne électorale, il ne peut pas froisser ses alliés comme messieurs Ben-Gvir et Smotrich, en étant souple par rapport aux négociations du plan Trump. Il se montre donc dur pour préserver sa coalition. Donc ça bloque un peu. Je pense qu'après les élections, quel que soit le résultat, c'est-à-dire que ça soit Benjamin Netanyahu qui reste au pouvoir ou qui soit remplacé, les choses avanceront mieux parce qu'il n'y aura pas de campagne électorale et à ce moment-là, on pourra négocier.
Alors, ça a été la même, c'est un peu le même détail, le même problème, et vous le disiez, Raphaël, au début, avec le Hezbollah. Cette semaine, il y a justement de nouveau des négociations à Rome qui ont commencé aujourd'hui pour étendre les zones pilotes. Et ce week-end, Israël a détruit des tunnels énormes du Hezbollah. Et clairement, on voit que là aussi, non seulement malgré les accords signés, il n'y a pas de vœu de se désarmer, mais il y a des plans opérationnels pour envahir et conserver des territoires qui sont aujourd'hui sur Israël.
Oui, alors là, il y a un jeu un petit peu d'équilibriste hein, entre les avancées diplomatiques entre Jérusalem et Beyrouth et de l'autre côté, les problèmes sécuritaires. Alors, ce qu'on essaye de faire du côté de Tsahal et du gouvernement israélien, c'est d'assurer la sécurité des citoyens du nord d'Israël, tout en laissant une chance à l'armée libanaise, au gouvernement libanais, de reprendre les choses en main. Bien que nous sachions qu'ils n'en soient pas tout à fait vraiment capables. Et donc, de temps en temps, on est obligé, c'est la même chose avec Gaza aujourd'hui, on est obligé d'intervenir. À Gaza, par exemple, de toute façon, quoi qu'il arrive, ceux qui ont participé au 7 octobre seront éliminés, même si c'est la paix totale, ce qui est, il y aura peut-être probablement pas, mais j'exagère, donc même s'il y a une paix totale, il faudra continuer à éliminer un par un tous les membres de la Nourba qui ont participé au massacre du 7 octobre. Le Hezbollah, c'est pareil, il y a des choses qu'on devra faire, et ça sera à ce moment-là aux Libanais, s'ils veulent véritablement calmer le jeu et normaliser avec Israël, de comprendre les nécessités, les impératifs sécuritaires, tout simplement sécuritaires, hein, qu'on pourrait dire, c'est pas personnel, messieurs les Libanais, mais nous avons des problèmes sécuritaires que vous n'arrivez pas à résoudre. Nous sommes bien obligés de le faire à votre place. Vous devriez nous dire merci.
Alors justement, Raphaël, on voit bien à quel point les points de vue des uns et des autres sont toujours compliqués. Chacun voit midi à sa porte, on va dire, sur Gaza. Le Qatar, l'Égypte et la Turquie, qui sont pourtant les médiateurs des négociations, ont publié pas plus tard qu'hier un communiqué qui condamne les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Après, est-ce que Israël en a vraiment quelque chose à faire?
Non, absolument pas. D'abord, du côté égyptien, on a toujours eu ces condamnations qui sont verbales. Et dans les coulisses, on travaille très très bien avec les Égyptiens lorsqu'il s'agit de les utiliser comme intermédiaires pour des négociations face au Hamas. En ce qui concerne la Turquie, le Qatar, ce sont des ennemis jurés d'Israël, dirigés par des antisémites finis qui veulent la destruction de l'État d'Israël et l'extermination de tous les Juifs. Donc, à mon avis, leur avis ne nous importe pas grand, pas beaucoup.
Alors, c'est vrai que cette affaire du Conseil de la paix, en tout cas, parce que ça fait déjà 9 mois que c'est signé tout ça, Raphaël, et ça donne pas l'impression d'avoir avancé beaucoup depuis 9 mois. Et donc, on se dit, si ça va encore mettre des années et que pendant ce temps-là, l'armée israélienne doit continuer de rester à Gaza, doit continuer de rester très présente pour le Hezbollah au Liban, doit continuer d'être très présente en Judée Samarie, et en plus d'être prête avec la guerre avec l'Iran, finalement, est-ce qu'on a beaucoup avancé?
Non, bien sûr que non. Il y a ici ces problèmes externes auxquels il faut ajouter le problème interne politique, pas suffisamment de budget à la défense, à un cabinet de sécurité frileux qui ne fait pas avancer les choses. L'armée piétine souvent. Je me rappelle le nombre de fois où on avait, par exemple, Hassan Nasrallah aussi noir dans la ligne de mire et qu'on n'obtenait pas l'autorisation d'aller de l'avant. Donc, il y a un souci là et on se retrouve effectivement dans une situation qui est très embarrassante parce que nous avons un manque de soldats. Non seulement on parle de la fatigue des réservistes, mais il y a aussi le matériel qui s'abîme, qu'il faut réparer, qu'il faut changer. Il y a l'argent que ça coûte au budget de l'armée. Tout cela, alors que cet argent-là, on a vu qu'il allait récemment plutôt vers les partis ultra-orthodoxes que vers Tsahal. Donc là, il y a un souci externe qui est doublé d'un souci interne. Et il y a un problème donc sécuritaire, il y a un danger. Parce que le chef de l'état-major de Tsahal, hein, ce que je viens de dire, ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est la déclaration du haut commandement de Tsahal. Tsahal s'essouffle économiquement, humainement, sur le plan personnel, en matériel, et donc il y a une nécessité absolue de renforcer la sécurité d'Israël et de donner beaucoup plus libre cours au plan que proposent les généraux de Tsahal. Aujourd'hui, véritablement, il faudrait donner beaucoup plus de pouvoir à la partie militaire. Nous sommes en une démocratie, c'est vrai, mais une démocratie, comme vous le dites, entourée d'ennemis, une démocratie en guerre. Et la seule chose qui va nous sauver, qui peut nous sauver, c'est Tsahal. Il faut donc les laisser faire leur travail tranquillement, leur donner surtout tous les moyens de le faire, inclus faire rentrer tout le monde à l'armée et que personne ne tire au flanc.
Alors justement, on finira là-dessus, Raphaël. Il y a eu une crise un petit peu qu'on comprend pas forcément vue de l'extérieur entre Israël Katz et le commandement Nord. Est-ce que c'est le ministre de la Défense? Vous avez l'air de dire clairement qu'il faudrait que l'armée soit moins politisée qu'aujourd'hui, Raphaël, si je comprends bien.
Bah, complètement. De toute façon, le ministre de la Défense, après ce qu'il a fait cette semaine, devrait démissionner parce que d'une part, c'est complètement illégal. Il n'a pas le droit. De par la loi israélienne de nommer ou ne pas nommer des généraux de Tsahal. Ça, c'est le privilège du chef de l'état-major de Tsahal. C'est lui qui décide qui il va promouvoir et qui il va envoyer à la retraite. Il en fait en plus, il n'a pas envoyé une lettre au chef de l'état-major. Il n'a même pas parlé à l'armée. Il a fait ça à la télévision dans un show lamentable. Là aussi, je n'exprime pas mon opinion personnelle. Il a été attaqué de tous les côtés, même par les personnes qui sont les dirigeants des implantations en Judée-Samarie, donc même par la droite. Il a été attaqué de la gauche à la droite pour son attitude face à Tsahal, dont je rappelle donc pour certains politiciens, pour ne pas citer par exemple messieurs Benvir et Smotrich, c'est véritablement scandaleux la façon dont aujourd'hui certains politiciens se permettent de maltraiter ou d'injurier Tsahal et un ministre de la Défense. Alors là, c'est véritablement, on est arrivé au maximum du cynisme politique, de se permettre ce qui lui est absolument interdit. Et en plus, qui est monsieur Katz? Un personnage dont il faut rappeler dont le quotient d'intelligence n'est pas très élevé, qui s'adresse ici au général Blout, qui est un des plus grands généraux que Tsahal ait jamais connu.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi d'avoir été avec nous ce matin. C'est vrai que c'est des questions qui sont délicates et qui vont être largement traitées en Israël pour les élections. Merci à vous, ancien officier du renseignement militaire et écrivain. Bonne journée à vous, à très bientôt.